la candidate de lutte ouvrière qui est sur ce plateau, je vous le disais, Nathalie Arthaud. Vous êtes critique sur les sanctions occidentales, vous êtes critique sur la politique de la France, de l'Occident. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'en effet, Vladimir Poutine a une responsabilité évidente, essentielle. C'est lui qui a fait le pas, le dernier pas.
De la guerre.
De cette guerre fratricide et qui est monstrueuse, monstrueuse.
Pardon, quand vous regardez ces images, quand on voit ces images, quand on les découvre ensemble, il y a des scènes, c'est terrifiant, ça rappelle la Seconde Guerre mondiale. De quel œil vous voulez regarder ?
Ben, ça rappelle aussi Alep, hein. Ça rappelle aussi ce qui s'est passé en Syrie il n'y a pas si longtemps que ça. Ça rappelle l'Irak, la destruction de l'Irak, qui a été le fait, je vous rappelle, justement, du camp occidental, des grandes puissances impérialistes. Hein.
Parce et aussi que les pour une partie
sur
de
les
Poutine.
Civils, ils savent faire aussi.
Et aussi pour une partie de Poutine et de Bachar.
Et oui, oui, mais de ce point de vue-là, justement, quand il s'agit de régler leurs comptes, hein, à coup de bombardement sur les civils, hein, les uns comme les autres, ils ne reculent pas. Il ne recule pas. Alors voilà, moi, clairement, je dis que oui, il y a une responsabilité de Vladimir Poutine, mais cette guerre, elle ne s'explique pas seulement par la politique de la Russie, elle s'explique aussi par le bras de fer qui existe depuis des décennies et qui l'oppose avec le camp occidental, avec les États-Unis et l'OTAN, bien sûr.
Vous rappelez la guerre d'Irak. On entend chez certains, dès lors qu'on dit qu'il faut juger Vladimir Poutine de crimes de guerre, dire, attention, il y a aussi Bush en Irak, par exemple, c'est votre avis ?
Ah oui, et puis je mettrais bien les gouvernants, les différents présidents de la République française, vous voyez, pour le Rwanda, par exemple. Je pense qu'en effet, oui, ils ont une responsabilité. Vous savez, les grandes...
Quel président, selon vous ?
Les grandes puissances.
Quel président, quand vous dites le Rwanda ?
On pourrait mettre Hollande, on pourrait mettre Sarkozy. Enfin bon, allons-y. Emmanuel Macron, hein, puisqu'il y a une continuité de toute façon dans cette politique-là vis-à-vis de l'Afrique. Mais
si on dilue à ce moment-là, ça n'a plus beaucoup de sens. Alors là, le tribunal pénal international.
Oui, mais voilà, moi, vous savez, non, mais justement, moi, je les considère comme des criminels de guerre. Et je pense que la puissance impérialiste la plus riche, celle qui domine, a la responsabilité la plus écrasante. Mais moi, ma perspective, ce n'est pas de les faire passer à la queue leu-leu devant un tribunal international, je ne sais quoi. Moi, ma perspective et mon espoir, c'est que la population, les travailleurs russes renversent Poutine. Et oui, qu'enfin, on se dise, ces dirigeants actuels-là, qui nous plongent dans la guerre, qui nous plongent dans cette catastrophe, parce que c'est la vie de millions de femmes et d'hommes qui est bien sûr complètement bouleversée en Ukraine, en Russie, mais à l'échelle du monde. Parce que les conséquences, on n'a pas fini de les payer. En fait, c'est des centaines de millions de femmes et d'hommes qui vont en payer les conséquences de cette situation-là. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura la conscience qui émergera de dire ces responsables actuels, il faut qu'on les renverse, ou pas qu'on leur laisse la marche du monde entre les mains.
Si on entre même dans votre logique, qui est une volonté impériale des États-Unis, parfois violente. Il y a eu les écoutes de la NSA, il y a eu Guantanamo, il y a eu Obama, grand tueur en matière de drones. Chacun peut juger à quel point c'est à charge. Mais malgré tout, est-ce qu'on n'a pas là, du côté de la Russie, peut-être demain de la Chine, un impérialisme encore plus dangereux ? Parce que impérialisme pour impérialisme, au moins, les démocraties occidentales, c'est une relative liberté, une grande liberté par rapport à ces régimes.
Moi, je pense qu'il faut renverser cet ordre impérialiste. Je pense que le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Ça, c'était Jean Jaurès. Mais vous voyez, cette phrase-là, il faut l'avoir en tête. C'est que, en effet, on est en guerre économique permanente. Alors, on avait démarré l'année, c'était contre la Chine. On avait l'impression qu'il y avait une ambiance, la guerrière qui montait, qu'on allait partir en guerre contre la Chine. Alors, bing, c'est finalement, ça vient de la Russie. Mais vous voyez, c'est une ambiance permanente parce que la guerre, tout court, c'est la continuité, en réalité, de ces rivalités.
Bien sûr, la guerre, pardon. La guerre générale, mais vous savez bien, si vous allez dans la rue, on préfère, même si c'est une domination économique, technologique, linguistique, on parle anglais, on se demande un peu pourquoi, mais il vaut mieux vivre cette domination-là que vivre la domination russe ou chinoise, non ?
Il vaut mieux vivre zéro domination.
Mais le monde n'est pas comme ça pour l'instant.
Moi, si je suis révolutionnaire, si je pense qu'il faut changer cette société de fond en comble, c'est parce que je pense que la soif de profit ne doit pas être la boussole qui fait que en effet, on plonge des régions entières dans la misère la plus noire, on affame des populations et on fait les guerres.
Nathalie Arthaud, vous êtes une candidate confortable d'abord, je tiens à souligner, parce que vous êtes la seule, il y a beaucoup de candidats à 1%, 2%, 5% qui font semblant de croire qu'ils seront président de la République, vous non. Alors vous êtes claire avec ça, vous n'avez pas du tout...
Non seulement pas semblant, mais en plus je n'aspire pas, figurez-vous, à être présidente de la République.
Vous êtes pour la rupture.
Parce que encore une fois, je pense que les changements, ils viendront d'en bas. En réalité, ils viendront d'en bas. Ils viendront quand les travailleurs révoltés, justement, de voir que...
Ça vous fait sourire, pardon, quand vous voyez les autres candidats, certains à 2 à 5% qui disent « oui, quand je serai président ».
Oui, ça me fait sourire parce que ça, c'est une véritable mascarade. Et en plus, ils nous expliquent qu'ils vont faire créer des 50 000 postes ici, 30 000 là. Enfin bon, ils savent très bien. Alors moi, oui, voilà, vous l'avez souligné, ma candidature, c'est pas une pluie de promesses.
C'est renversement du capitalisme.
Voilà. Et surtout, je tiens à expliquer la situation au monde du travail. Et la situation, c'est qu'en fait, là, on plonge dans une période... C'est un peu la terre. C'est là, on est vraiment en terrain inconnu. C'est-à-dire
Nathalie Arthaud,
on est dans une crise grave.
Est-ce que la réalité, ne vous contredit pas quand on voit les chiffres de la croissance le Covid, ça s'est repris. 2008, c'était la grande crise financière. On disait, regardez, le capitalisme, c'est foutu, etc. Très bonne reprise. Quand même, on vit mieux aujourd'hui en France qu'il y a 50 ans. Non. On vit mieux aujourd'hui en France que dans beaucoup de pays non capitalistes. C'est pas parfait. Il y a beaucoup de pauvreté.
Ah, ça, c'est sûr. Mais je tiens quand même, avant de rentrer dans cette discussion, je tiens quand même à souligner que Bruno Le Maire lui-même a dit qu'il y aurait finalement moins de croissance. Et en fait, y compris encore aujourd'hui, il a expliqué qu'il ne pouvait même pas la fixer. Parce que précisément, on replonge dans une crise. On sait où a démarré cette guerre. Est-ce qu'on sait où elle va se terminer? Et est-ce qu'on en mesure les conséquences économiques? Écoutez, moi, je vois qu'il y a une déstabilisation complète. C'est des marchés qui s'arrêtent. Il y a déjà en France des entreprises qui sont au ralenti, qui mettent en place du chômage partiel. Pour des dizaines de milliers de salariés, déjà, c'est l'angoisse de dire... Qu'est-ce qui va se passer demain? Donc la réalité, c'est celle-là. Alors, moi, je pense que la situation, elle était déjà... très, 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 très dur pour le monde du travail. Ouais. Parce que des femmes et des hommes qui travaillent dur, aujourd'hui, ils ont du mal. Ils ont du mal à se chauffer ou à faire leur plein d'essence.
Aujourd'hui, mobilisation de Jean-Luc Mélenchon, très réussie. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient là à la manifestation. Eux disent 100 000, les chiffres, on discute toujours un peu. Mais est-ce que vous ne vous dites pas quand même, quand on se rappelle, 1936, les congés payés, la gauche au pouvoir, 80, la gauche au pouvoir, ça a quand même changé beaucoup de choses. Ouais, voilà. Même si ce n'est pas le pouvoir, être au moins au second tour pour la gauche, Jean-Luc Mélenchon aurait quelques chances. Ce n'est pas dommage de perdre ses chances.
Vous savez, 1936, c'est d'abord et avant tout une grève générale. Oui. Une mobilisation d'ampleur qui a fait pression sur Léon Blum et qui a imposé d'ailleurs les congés payés.
Ce n'est pas possible ça aujourd'hui.
Mais ce que je tiens à dire, c'est que regardez, il y a eu les congés payés en effet à 36. En 36 et en 39, c'était la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'était la Seconde Guerre mondiale. C'était plus les congés payés, là. C'était plus les congés payés. C'était la guerre. C'était la guerre. Et c'était donc combien? 80, 100 millions de morts à l'échelle. Donc, ce que je veux souligner, c'est que oui, il y a un combat, il y a un rapport de force à faire, là, pour défendre notre beefsteak, j'ai envie de dire. Mais il faut bien réaliser qu'on a une société à changer, que ça devient urgent, parce qu'on ne réglera aucun de ces problèmes de guerre, d'exploitation, de misère et de crise climatique si on ne renverse pas cette société capitaliste.
Un mot personnel, à 17 ans, vous devenez trotskiste?
Oui, alors 18 ans, à 18,
ouais, 18 ans, vous lisez Marx,
m'engage. Oui.
Vous y croyez encore fortement?
Marx qui expliquait que le capitalisme nous condamnait aux crises économiques. Alors vous voyez, je crois que voilà, là on est en plein dedans. Quand on n'a pas un krach financier, on a une crise sanitaire. Quand on sort la crise sanitaire, qu'on croit en sortir, on plonge dans une guerre. Alors vous voyez, Marx, effectivement, c'est une lecture très utile.
Parents catholiques, catho de gauche, mais catholique.
Oui, oui.
Vous connaissez la fameuse phrase, je ne me prends pas pour Jacques Chancel, je n'ai pas son talent hélas, mais qui demandait à Georges Marchais et Dieu dans tout ça. Vous vous rappelez?
Il
faut absolument regarder l'archive. D'accord. Et Georges Marchais lui dit « Oui, Dieu, c'est intéressant parce qu'entre les communistes et le catholicisme, il y a certaines proximités, on a la foi. Vous le pensez aussi ?»
Ah, moi, je pense que l'humanité, elle peut maîtriser son sort, elle peut contrôler son avenir, elle peut faire des choses magnifiques. Moi, vous savez, tous les jours, je suis épatée par ce que la société est capable de faire. Enfin, je trouve qu'on regorge de possibilités scientifiques et techniques. Mais franchement, quand il y a cette propriété privée capitaliste, quand il y a ces calculs, quand il y a ces... Voilà, eh bien, finalement, ça les dévoie. Et malheureusement, on ne les met pas au service de la population. Et c'est ça qu'on peut et qu'on doit faire.
Nathalie Arthaud, merci. Foi intacte, on l'a compris. Comme Madame Laguiller, vous serez combien de fois candidate?
Ah, mais moi, j'espère que je serai à la tête des prochaines luttes pour la changer de fond en comble, cette société.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité, de vos commentaires, notamment sur la situation en Ukraine.